Monsieur Sun Storyline de la leçon biblique 5 actes et Paul. Symbole copyright 2024 Dave Monsieur Sun et Ted Reel de Brent. Il s'agit de la conférence numéro 5/6 sur le scénario de la Bible par le docteur Dave Monsieur Sun. Dans cette conférence, il traitera des épîtres de Paul et retracera les 5 thèmes majeurs de la terre, de l'alliance, du temple, de son peuple et de la royauté à travers les épîtres pauliniennes. Et maintenant, le docteur Dave Monsieur Sun. Nous avons examiné ce que j'appelle le scénario de la Bible, ou une sorte de récit sous-jacent qui raconte la relation rédemptrice de Dieu avec l'humanité et le cosmos entier, en accomplissement de son intention originale pour la création dans Genèse 1 et 2. Nous avons examiné à cela en termes de 5 thèmes interdépendants, le thème du peuple de Dieu, le thème de l'alliance, le thème de la création et de la terre, le thème du temple et le thème de la royauté. Et nous avons regardé comment ceux-ci se sont développés dans l'Ancien Testament. Dans la dernière conférence, nous avons examiné comment ces thèmes atteignent leur apogée et s'accomplissent dans la personne de Jésus-Christ, en nous concentrant particulièrement sur la façon dont ces thèmes émergent dans les évangiles et comment le Christ les amène à leur accomplissement. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est regarder au-delà des évangiles et voir comment ces thèmes continuent de faire surface et de se frayer un chemin à travers le reste du Nouveau Testament, trouvant leur point culminant et leur accomplissement ultime dans la vision du salut échatologique dans Apocalypse entre 21 et 22. Et encore une fois, je tiens à vous rappeler que lorsque nous réfléchissons à l'histoire et à la manière dont elle se réalise, nous devons établir 2 séries de distinctions. La première concerne la façon dont celles-ci s'accomplissent en Christ, le fait que Christ est la clé de l'accomplissement de ses promesses, de ses thèmes principaux et éléments du scénario. Deuxièmement, ces thèmes, par extension, se réalisent également chez les personnes qui appartiennent au Christ et qui sont incorporées au Christ par la foi. Donc, premièrement, ils s'accomplissent en Christ, et deuxièmement, ils s'accomplissent dans le peuple de Dieu qui lui appartient. La deuxième distinction que nous devons faire est entre l'accomplissement inauguré de ces promesses et de ces thèmes et l'accomplissement consommé. Nous avons dit que la tension échatologique entre ce que les chercheurs appellent souvent l'échatologie déjà inaugurée, mais pas encore inaugurée, et l'échatologie consommée affecte également ces 5 thèmes. Donc au début, ils sont inaugurés dans la partie déjà de cette tension à travers le Christ et ses disciples, l'Église, mais dans le futur, au moment où les théologiens appellent la seconde venue du Christ, ceci à la toute fin de l'histoire, le moment où le Christ inaugure une toute nouvelle création, puis ces thèmes trouvent leur accomplissement consommé, le côté déjà de cette tension. Ainsi, aujourd'hui, nous continuerons à examiner les 2 aspects déjà, en nous concentrant particulièrement sur le peuple de Dieu, l'Église, et comment ces 5 thèmes s'accomplissent, mais en terminant également par l'aspect pas encore, la consommation et la finale échatologique dans Apocalypse entre 21 et 22, où nous verrons que ces 5 thèmes émergent tout. En commençant donc par le livre des Actes, à la suite des Évangiles, ce que je veux vous montrer, c'est que cette histoire se poursuit à travers le livre des Actes. Pour les actes, je ne vais pas nécessairement isoler les 5 thèmes séparément, mais juste examiner très brièvement en particulier les premiers chapitres des actes, mais aussi en quelque sorte regarder les actes dans leur ensemble, et juste pour voir comment cette histoire qui commence de retour dans la création, dans le récit de la création dans Genèse 1 et 2, continue maintenant d'exercer son influence dans les actes. Et encore une fois, je vous le rappelle, je ne veux pas dire que le principal fardeau de chaque auteur du Nouveau Testament est d'expliciter ces 5 thèmes, mais à tout le moins, de suggérer qu'il assume cette histoire. Il suppose la suite de l'histoire qui commence dans la Genèse, traverse le Nouveau Testament, jusqu'à la vie du Christ, et continue maintenant de se frayer un chemin à travers le reste des auteurs du Nouveau Testament. Donc, en commençant par le livre des Actes, le point de départ, que je veux commencer de toute façon, est par Actes et le verset 8. Il est intriguant qu'au verset 6, les disciples de Jésus posent la question, « Seigneur, est-ce à cette fois où tu rendras le royaume à Israël ?» Il est donc clair qu'ils attendent toujours l'accomplissement ultime des promesses par lesquelles se termine le texte prophétique de l'Ancien Testament. Et maintenant, à mon avis, acte 1, verset 8 est une réponse à cette question, dans un sens, lorsque Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Maintenant, ce que je veux souligner à propos de ce verset, c'est qu'il est bien plus qu'une stratégie missionnaire sur la façon de faire de l'évangélisation, en commençant par votre région d'origine, puis en l'étendant, aussi vrai que cela puisse être. Ce n'est pas principalement le sujet de Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, en fait, toutes ces phrases résonnent avec des textes du livre d'Isaïe. Ainsi, la promesse de restauration d'Isaïe, où Dieu restaurera son peuple, son royaume, sous un roi davidique, dans une nouvelle alliance, dans une nouvelle création, la promesse de restauration d'Isaïe est maintenant considérée comme commençant à s'accomplir dans le livre des Actes. Et ce texte, qui est Actes 1, verset 8, dans un sens, fournit l'introduction à l'ensemble du livre, non seulement sous forme d'esquisse, mais théologiquement, dans la mesure où le reste des Actes va, dans un sens, parler de la façon dont le récit d'Isaïe promesse de restauration, comment cette histoire de l'Ancien Testament qui remonte à la création, en fait, s'accomplit maintenant chez les disciples de Jésus dans la propagation de l'Église, dans la propagation de l'Évangile. Ainsi, par exemple, la mention de recevoir l'Esprit lorsque Jésus leur dit « Vous recevrez le Saint-Esprit », qui sort d'Ésaïe, chapitre 32 et verset 15. Le fait qu'ils doivent, quand Jésus dit « Vous devez être mes témoins », le thème du témoignage, encore une fois, vient du livre d'Ésaïe, où Israël devait être le témoin de Dieu. Ésaïe, chapitre 43, au verset 10, ainsi qu'au verset 12. Et le fait qu'en fin de compte, cette tâche des disciples était d'atteindre la fin de la terre, ce témoignage devait atteindre les extrémités de la terre, encore une fois, reflète Isaïe, chapitre 49 et verset 6, que le royaume finirait par s'étendre, et ce témoignage irait finalement jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, Actes, chapitre 1, verset 8, en tant que sorte de déclaration programmatique pour le reste des Actes, est étroitement lié à la promesse d'Isaïe de restauration à partir de l'Ancien Testament. Mais plus encore, remarquez également la mention de Samarie et de Jérusalem. Quand Jésus dira, « Commencez, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. » Maintenant, pourquoi l'auteur mentionne-t-il la Samarie? Pourquoi Jésus leur a-t-il dit de commencer par Jérusalem, puis d'inclure également la Samarie? Parce que ce qui se passe ici, c'est maintenant Jérusalem, la capitale du royaume du sud, et maintenant Samarie, le royaume du nord d'Israël, qui sont unis et restaurés, conformément à l'attente prophétique. Ainsi, Israël est maintenant restauré dans Actes, chapitre 1 et verset 8, de sorte que le salut peut désormais aller jusqu'aux extrémités de la terre, en accomplissement du programme de restauration d'Isaïe, mais aussi en accomplissement de l'intention originelle de Dieu de remplir tout le monde. La terre avec sa gloire, sa présence et son règne dans la Genèse, chapitre 1 et verset 2. Ainsi, déjà au chapitre 1, l'auteur fait entendre les notes de ce scénario que nous avons vu remonte à la création et tisse ses tout au long du Nouveau Testament et apparaît surtout dans la littérature prophétique. Au chapitre 2, nous trouvons davantage d'indications sur l'intention de l'auteur de relier son histoire des Actes à l'histoire de l'Ancien Testament. Dans Actes, chapitre 2, par exemple, lorsque vous lisez le discours de Pierre en réponse aux accusations concernant ce qui se passait le jour de la Pentecôte, au début du chapitre des Actes, lorsque le Saint-Esprit est répandu sur le peuple de Dieu, c'est en réponse à cela, dans le discours de Pierre, lisez le chapitre 2 de temps en temps et remarquez combien de fois le nom de David est évoqué. Remarquez combien de fois la situation est liée à un texte lié au roi davidique. Ainsi, le roi davidique a maintenant été restauré. La promesse de Dieu à David trouvée dans l'Ancien Testament remontant à 2 Samuel 7, dont nous avons dit qu'elle remonte finalement à l'intention de Dieu pour la création dans Genèse 1 et 2, est maintenant en cours. La restauration est donc en cours. Mais nous trouvons plus d'indications sur les thèmes du peuple de Dieu, de l'imagerie du temple, de l'imagerie de la nouvelle alliance dans le chapitre 2. Par exemple, je me demandais toujours pourquoi, vers la fin des Actes, chapitre 1, pourquoi l'Église a-t-elle jugé nécessaire de nommer un autre disciple dans les derniers versets du chapitre 1? Pourquoi ont-ils jugé cela nécessaire? C'est presque ici suggéré par hasard dans l'histoire de l'Esprit de Dieu déversé sur le peuple le jour de la Pentecôte et du mandat de l'Église d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi avez-vous, encore une fois, cette histoire de l'Église choisissant un successeur, un disciple, qui serait le 12e? Si vous vous en souvenez, Judas a fait défection dans les évangiles, et maintenant l'Église choisit le 12. Pourquoi font-ils ça? Probablement parce que, encore une fois, le chiffre 12 est significatif. Autrement dit, la raison pour laquelle ils avaient besoin de 12 disciples ou 12 apôtres était parce que c'était emblématique des 12 tribus d'Israël ou du peuple de Dieu. Ainsi, en choisissant l'apôtre numéro 12 à la fin du chapitre 1 des Actes, encore une fois, l'auteur dit que le peuple de Dieu est en train d'être restauré. La restauration d'Israël est en marche en choisissant le 12 et en établissant le fondement du nouveau peuple de Dieu dans les 12 disciples de Jésus-Christ. Donc, je pense que cela explique pourquoi Luc juge nécessaire de raconter l'événement du choix d'un 12e disciple comme indiquant ici la restauration du peuple de Dieu. Voici le nouveau peuple de Dieu fondé sur les 12 apôtres. C'est la véritable restauration du peuple de Dieu. Mais remarquez les autres thèmes trouvés dans Actes chapitre 2, le déversement du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, suggère la promesse de la nouvelle alliance. Si vous revenez au texte prophétique, jusqu'au chapitre entre 36 et 37 d'Ézéchiel, la nouvelle alliance devait être accompagnée et signalée par l'effusion du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est un signe que la nouvelle alliance de Dieu est venue sur son peuple. Greg Beale, dans quelques articles, a également soutenu que le déversement de l'Esprit sur les gens le jour de la Pentecôte suggère la présence de Dieu venant résider et se reposer dans son temple. Vous avez donc également le thème du temple dans Actes chapitre 2, ainsi que le thème de l'alliance et de la restauration d'Israël. Il est également intéressant de noter que le fait que toutes ces personnes fassent un pèlerinage à Jérusalem en préparation du jour de la Pentecôte et de l'effusion de l'Esprit reflète probablement l'attente prophétique de l'Ancien Testament que nous avons vu dans des textes comme Ézéchiel et Isaïe du pèlerinage de le peuple ou le retour du peuple d'exil dans sa patrie. Et puis cela s'accompagne du règne du roi Davidique, et du déversement de l'Esprit, de la nouvelle alliance, de la présence de Dieu avec son peuple, de sorte que Richard Bauckham pourrait affirmer dans l'un de ses livres récents que la Pentecôte ce n'est peut-être pas tant l'anniversaire de l'Église que le début de la restauration de la diaspora. Autrement dit, tout le peuple de Dieu dispersé à cause de l'exil est maintenant rétabli. Voilà donc le début, les déjà étapes de la restauration d'Israël, de la restauration du peuple de Dieu. Quelques autres notes intéressantes sont que tout au long des actes, vous trouvez également ce genre de mise à jour ou d'avis qui, fréquemment, après certains événements, sont racontés, une petite légende qui décrit, et l'Église a grandi et augmenté en nombre ou de nombreux disciples ont été ajoutés à leur nombre. Notamment par exemple, le chapitre 6 des actes, le chapitre 6 et les versets 1 et 7. Le verset 1 dit, « Or, pendant les jours où les disciples augmentaient en nombre, et le verset 7, la parole de Dieu continuait à se répandre, le nombre des disciples augmentait. Le nombre de disciples augmenta considérablement. » Et le chapitre 9 aussi, et le verset 31, « Pendant ce temps, l'Église dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie eut la paix et se bâtit, vivant dans la crainte du Seigneur et dans la consolation du Saint-Esprit, elle augmenta en nombre. » Je pense que cette phrase, cette insistance sur la croissance et l'augmentation, est le reflet de l'intention originale de Dieu pour l'humanité dans Genèse 1 et 2, qu'elle serait féconde et multipliée, qu'elle augmenterait et remplirait la terre d'autres images. Progéniture. Cela reprend probablement aussi le thème de la progéniture d'Abraham étant nombreuse, les Israélites augmentant lors de l'Exode, Exode chapitre 1, de sorte qu'une fois de plus nous trouvons ici que l'intention de Dieu pour la restauration de son peuple, là où la postérité d'Abraham serait nombreux, où ils augmenteraient et se multiplieraient en accomplissement du mandat de Dieu dans la création, dans les chapitres 1 et 2 de Genèse, d'être fécondes et de se multiplier, est maintenant réalisé et accompli dans le livre des Actes. Ainsi, le chapitre 28 d'Actes se termine à la suite d'une série de longs voyages missionnaires de Paul qui s'élargissent de sorte que Paul se termine à Rome, à travers les voyages missionnaires de Paul, et le chapitre 28 d'Actes se termine avec l'évangile atteignant Rome, et vous avez Paul prêche toujours le royaume de Dieu. Donc, ce qui se passe encore une fois dans Actes, c'est que dans les deux premiers chapitres, le peuple de Dieu, Israël, est en train d'être restauré, le temple est en train d'être restauré avec Dieu habitant avec son peuple, une nouvelle alliance est réalisée, le roi David règne sur son peuple, et maintenant que cela a eu lieu, le salut peut aller jusqu'aux extrémités de la terre en accomplissement des Actes 1 à 8, en accomplissement de l'histoire que nous avons examinée, de sorte que les Actes se terminent avec l'histoire en route. À la réalisation alors que l'Évangile s'étend, dans un sens, jusqu'aux extrémités de la terre, l'Empire romain, dans Actes chapitre 28. Alors maintenant que cela s'est produit, maintenant qu'Israël a été restauré et que cette partie de l'histoire a maintenant commencé à atteindre une résolution, maintenant la résolution plus large de la diffusion de l'Évangile et du royaume et de la domination de Dieu englobant la terre entière peut maintenant prendre lieu également. Il y a un certain nombre d'autres choses dans Actes que nous pourrions probablement examiner, mais encore une fois, je voulais juste vous donner une idée de la façon dont même Actes est une continuation du scénario. Il s'agit bien plus que de l'établissement de l'Église primitive et de la façon dont l'Église primitive a commencé à répandre l'Évangile, oui, c'est vrai, mais il faut le voir comme les étapes continues qui commencent dans Luc et les autres Évangiles, les étapes continues de l'Église primitive. L'accomplissement de l'histoire qui remonte à la création. L'un des personnages les plus importants des Actes est l'apôtre Paul. Dans un sens, les Actes constituent donc une introduction appropriée au reste du Nouveau Testament, car certains des personnages principaux des Actes présentent désormais leurs lettres et leurs écrits figurent dans le reste du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est l'une des figures dominantes depuis les premiers chapitres des Actes, qui en vient bientôt, en un sens, à dominer le reste de la scène, et Paul. Je veux donc examiner les écrits de Paul et démontrer comment, en particulier, ces cinq thèmes de cette histoire font surface chez Paul. Encore une fois, nous examinons principalement l'aspect déjà inauguré. Nous examinerons principalement comment ces thèmes se réalisent chez les personnes elles-mêmes dans l'Église, mais nous continuerons également à voir comment, même pour Paul, ils se réalisent en Jésus-Christ lui-même. Alors commençons par le peuple de Dieu. Le thème du peuple de Dieu chez Paul va évidemment se retrouver bien au-delà des endroits où il mentionne simplement le peuple de Dieu ou l'Église ou quelque chose comme ça. Et ce que je pense, c'est le nombre de fois dans les lettres de Paul où l'Église, le peuple de Dieu, apparaît participer aux promesses faites à Israël, en particulier aux promesses de la Nouvelle Alliance. Comme nous allons le voir, toutes les promesses de salut dont jouit le peuple de Dieu et auxquelles participent les chrétiens sont inextricablement liées à la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas de salut en dehors de la Nouvelle Alliance que Dieu conclut avec son peuple. Ainsi, Jésus, comme nous l'avons vu dans les Évangiles, inaugure une Nouvelle Alliance. Paul va maintenant continuer à assumer et à articuler la présence de la Nouvelle Alliance et les bénédictions du salut qui en découlent pour le peuple de Dieu. Ainsi, à maintes reprises, l'Église apparaît comme participant aux promesses faites à Israël, particulièrement liées à la Nouvelle Alliance. Toutes les promesses de salut, les promesses du Saint-Esprit, quand nous lisons les références au Saint-Esprit, étant remplis de l'Esprit, étant scellés de l'Esprit, tout ce langage lié au Saint-Esprit se rapporte à la Nouvelle Alliance. Nous y reviendrons dans un instant. Mais quelques autres textes sur lesquels se concentrer. L'un des plus clairs se trouve dans le chapitre 2 d'Éphésiens. Dans le chapitre 2 d'Éphésiens et dans les versets 11 à 22 en particulier, Paul dit ceci, « Et ce que je veux que vous remarquiez aussi, c'est une grande partie de ce langage que nous allons lire d'ici peu. Et jusqu'à présent, le langage de la prédication de la paix, tout cela vient d'Isaïe. Alors maintenant, même Paul voit les promesses, le programme de restauration d'Isaïe comme étant maintenant accompli dans l'Église, qui est composée de juifs et de gentils. C'est pourquoi Paul dit, à partir du verset 11, Éphésiens chapitre 2, « Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous, les gentils de naissance, appelés incirconcision par ceux qu'on appelle circoncision, c'est-à-dire les juifs, une circoncision physique faite dans le chair par des mains humaines, rappelez-vous qu'à cette époque vous étiez sans Christ, étrangers à la République d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ. » Vous qui étiez autrefois loin hors, langage d'Isaïe, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Ainsi, même pour Paul, Christ est la clé pour accomplir les promesses faites à Israël. Le Christ est le point culminant de l'histoire. Car il est notre paix, dans sa chair il a fait des deux groupes, juifs et gentils, un seul, et a brisé le mur de séparation, c'est-à-dire l'hostilité entre eux. En abolissant la loi avec ses commandements et ses ordonnances, afin qu'il puisse créer en lui une nouvelle humanité, la nouvelle création issue d'Isaïe. De sorte que maintenant il crée une nouvelle humanité à la place de ces deux-là, établissant la paix. Et afin qu'il puisse réconcilier les deux groupes, juifs et gentils, avec Dieu en un seul corps à travers la croix, mettant ainsi fin à l'hostilité à travers elle, à travers la croix. Il est donc venu et a proclamé la paix à vous qui êtes loin et la paix à ceux qui sont proches. Car par lui nous avons tous deux accès à un seul esprit, ou dans un seul esprit, au Père. Je m'arrête là car je reviendrai plus tard sur les deux ou trois versets restants de ce texte. Mais ce que vous voyez ici est clairement que Paul suppose que l'union des juifs et des gentils en une seule nouvelle humanité, en un seul nouveau corps, l'Église, est considérée comme l'accomplissement des promesses de Dieu données à Isaïe, ou des promesses de restauration d'Isaïe. De manière très claire pour Paul, nous voyons maintenant Dieu exprimer son intention de rétablir et de restaurer son peuple. Une nouvelle humanité composée de juifs et de gentils. Ainsi, comme nous l'avons déjà vu dans les Évangiles, avec la venue du Christ, qui accomplit le destin d'Israël et du peuple de Dieu et est la clé pour accomplir leur histoire, l'appartenance au peuple de Dieu n'est plus définie ethniquement, mais désormais est définie uniquement en termes de relation avec Jésus-Christ. Ainsi, parce que Jésus-Christ est venu et que, par sa mort sur la croix, il a accompli la paix, l'appartenance au peuple de Dieu dépend désormais de la réponse de chacun à Jésus-Christ. le peuple de Dieu constitué de juifs et de gentils tourne désormais autour de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, au chapitre 2 d'Éphésiens, le nouveau peuple de Dieu est clairement en train d'être restauré, il n'est plus défini selon des critères ethniques, mais défini uniquement sur la base de Jésus-Christ et de son œuvre sur la croix. Une autre clé, il y a d'autres textes que nous pourrions citer, mais un autre exemple, une autre clé pour comprendre l'Église en tant que peuple de Dieu, en continuité avec le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, l'Israël de l'Ancien Testament, se trouve également dans l'application du thème ou motif du nouvel Exode à l'Église. Ainsi, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 5 et verset 7, sans parler de 1 Corinthiens entre 10 et 11, où nous voyons l'Église comparée à Israël, mais dans le chapitre 5 et le verset 7 de 1 Corinthiens, je reviens en arrière et, voyons, je vais lire 7, nettoyez la vieille levure, afin que vous puissiez être une nouvelle fournée, car vous êtes vraiment sans levain. Car notre agneau pascal, le Christ, notre agneau pascal, le Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi. Verset 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec le levain de la méchanceté ou du mal, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Remarquez à quel point de ce langage vient directement du récit de l'Exode, de sorte que, dans un sens, ce que dit Paul, un nouvel Exode a commencé, avec Jésus sauvant et délivrant maintenant son peuple du péché, de la mort et du mal, et le rétablissant comme son peuple. Et les délivrant tout comme il l'a fait avec son peuple au jour de l'Exode. Vous trouvez également le langage de l'Exode dans deux autres textes, Colossiens chapitre 1 et versets entre 13 et 14. Il nous a sauvés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Encore une fois, ce langage de sauvetage, de rédemption et d'achat reflète l'Exode. Ainsi, Dieu, Paul exprime clairement ici l'intention de Dieu de, dans un nouvel Exode, sauver son peuple, restaurer son peuple et lui apporter le salut, en accomplissement du motif de l'Exode. Les chapitres 4 et 1 à 7 de Galates résonnent également avec ce langage de l'Exode en termes de rédemption et de sauvetage de l'esclavage et de la filiation, Israël étant le fils de Dieu du livre de l'Exode. Ainsi, les sept premiers versets du chapitre 4 de Galates. Mon point est le suivant. Les héritiers, tant qu'ils sont mineurs, ne valent pas mieux que des esclaves, bien qu'ils soient propriétaires de tous les biens. Mais ils restent sous tuteurs et curateurs jusqu'à la date fixée par le Père. Ainsi, chez nous, lorsque nous étions mineurs, nous étions esclaves des esprits élémentaires du monde. Mais lorsque la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption comme fils. Et parce que vous êtes ses enfants, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant, Abba, Père. Vous n'êtes plus des esclaves, comme l'étaient les gens du temps de l'Exode, mais maintenant vous êtes des fils. Et si fils, alors aussi héritiers par Dieu. Il est donc clair que Paul assume l'histoire de l'Exode, et le langage de l'Exode indique dans ce texte et dans les autres textes que Dieu, dans un nouvel Exode, est maintenant en train de restaurer, de sauver et de reconstituer. Son peuple, qui est maintenant ce groupe transculturel dont nous parlons dans Éphésiens 2, composé à la fois de juifs et de gentils, basé sur leur relation avec Jésus-Christ. Ainsi, le peuple de Dieu, thème important tout au long des écrits de Paul, où encore une fois il voit le peuple comme le point culminant, l'Église composée de juifs et de gentils, qui sont maintenant les destinataires et participent aux promesses de Dieu de l'Ancien Testament, sont maintenant le peuple de Dieu. Vrai peuple de Dieu, en accomplissement de l'intention de Dieu qui remonte à la création, d'établir un peuple avec lequel il entrerait en relation et habiterait. Cela nous amène au thème suivant, le thème de l'Alliance ou de la Nouvelle Alliance. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, les textes prophétiques se terminaient par l'anticipation d'une nouvelle alliance que Dieu établirait avec son peuple, ce que nous lisons dans des textes tels que Ézéchiel 37, 36 et 7, Jérémie chapitre 31. Et maintenant, soit Paul mentionne clairement la Nouvelle Alliance, soit il inclut et met également en évidence des thèmes importants de la Nouvelle Alliance. Ainsi, par exemple, comme je l'ai déjà dit, la mention du Saint-Esprit. Tout au long des lettres de Paul, je suis convaincu que chaque fois qu'il mentionne le Saint-Esprit, cela sous-tend l'hypothèse de l'établissement de la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit était l'une des promesses d'Ézéchiel entre 36 et 37. Le Saint-Esprit était une promesse de Nouvelle Alliance. L'effusion de l'Esprit dans Acte 2, en accomplissement du chapitre 2 de Joël, est clairement liée à l'établissement par Dieu d'une nouvelle alliance avec son peuple. Donc, en mettant l'accent sur l'alliance, le Saint-Esprit, que nous avons, encore une fois le langage de Paul, que nous avons été remplis de l'Esprit, ou baptisés dans l'Esprit, ou scellés de l'Esprit, Éphésiens 1, ou autre langage de partage de chrétiens. Dans l'Esprit, recevoir l'Esprit, ce n'est pas seulement une nouvelle terminologie chrétienne, c'est une terminologie de la nouvelle alliance. Ainsi, la présence de l'Esprit avec son peuple, la possession du Saint-Esprit par le peuple, évoque clairement l'idée de la nouvelle alliance de l'Ancien Testament. Paul mentionne chaque fois qu'il parle du pardon des péchés, à travers la mort de Christ sur la croix, nous avons le pardon des péchés. Le pardon des péchés est lié à la nouvelle alliance. Le langage d'Ézéchiel de Dieu nous purifiant, ou nous donnant un cœur nouveau, ou éliminant notre impureté. Le fait que nos péchés aient été pardonnés est l'une des bénédictions de la nouvelle alliance. Ainsi, chaque fois que Paul parle de la purification, de l'effacement ou du pardon de nos péchés, c'est à cause de la nouvelle alliance. Cela suppose l'établissement de la nouvelle alliance. L'un des endroits où Paul discute clairement de la nouvelle alliance et s'appuie sur le langage de la nouvelle alliance, et plus généralement sur le langage de l'alliance, se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, et encore une fois, je vais juste en lire des parties, je ne lis pas tout, mais partout ici, remarquez le langage de l'Alliance, remarquez le langage d'Ézéchiel entre 36 et 37. Alors, dit Paul, commençons-nous à nous féliciter nous-mêmes. 2 Corinthiens 3. Encore une fois, nous n'avons sûrement pas besoin, comme certains le font, de lettres de recommandation de votre part, ou de votre part, n'est-ce pas ? Vous êtes vous-même une lettre écrite dans nos cœurs pour être connue et lue de tous. Et tu montres que tu es une lettre du Christ préparée par nos soins, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de la nouvelle alliance, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de cœur humain, reflétant ce langage de Ézéchiel entre 36 et 37. Telle est la confiance que nous avons par Christ envers Dieu. Non pas que nous soyons compétents pour revendiquer quoi que ce soit qui vienne de nous. Notre compétence vient de Dieu, qui nous a rendus compétents pour être des ministres de la nouvelle alliance, non pas de lettres, mais d'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit de la nouvelle alliance d'Ézéchiel, donne la vie. Il est donc clair que Paul utilise le langage de la nouvelle alliance, mais encore une fois, son langage assume le langage de l'alliance, et particulièrement de la nouvelle alliance, tel qu'on le trouve dans Jérémie, et particulièrement dans Ézéchiel, au cœur du ministère de Paul. Il est le ministre et le dispensateur de cette nouvelle alliance promise dans l'Ancien Testament. Ainsi, Paul envisage la restauration du peuple de Dieu, un peuple qui transcende les barrières culturelles ou nationales pour inclure tous les peuples en vertu de leur relation avec Jésus-Christ. Paul comprend donc que la promesse de la restauration des hommes, qui remonte à l'histoire de l'Ancien Testament et finalement au livre de la Genèse, est maintenant en cours. À cela s'ajoute le thème de l'alliance. Si le peuple a été restauré, l'alliance doit également être appliquée. Et nous voyons à nouveau des allusions dans le langage de Paul et dans de nombreux concepts théologiques sur la présence et l'inauguration de la nouvelle alliance. Royaume ou royauté davidique. De même, Paul assume, et parfois exprime clairement, les promesses d'un royaume davidique en accomplissement de l'intention de Dieu de régner sur la création par l'intermédiaire de son vice-régent qui remonte à la Genèse. Paul voit que cela s'accomplit, encore une fois, dans la personne de Jésus-Christ, mais aussi dans son peuple. Ainsi, par exemple, il y a des endroits où Paul comprend clairement Jésus comme l'accomplissement des promesses faites à David. Romains chapitre 1 et verset 3, l'évangile concernant son fils qui descendait de David selon la chair. Il est donc clair que Paul relie Jésus-Christ à la lignée physique de David, en accomplissement de 2 Samuel 7 et à l'attente prophétique d'un roi davidique à venir. Il y a même un débat sur la mesure dans laquelle, chaque fois que Jésus est appelé Christ, certaines traductions anglaises peuvent avoir le Messie, mais la plupart d'entre nous diront Jésus-Christ ou le Christ ou quelque chose comme ça. Même dans les lettres de Paul et d'autres auteurs du Nouveau Testament, lorsqu'ils font référence à Jésus comme au Christ, combien de ces exemples sont des titres par opposition au simple nom de Jésus ou à un nom propre ? Il existe un certain consensus sur le fait qu'au moins beaucoup d'entre eux, que nous pensions traditionnellement, sont simplement Jésus-Christ, que Christ porte encore une partie de sa force titulaire en tant que Messie, en tant que roi, en accomplissement des promesses davidiques. Mais au moins, Paul lui-même nous dit dans Romains 1 à 3 que Jésus est un descendant de David. Ailleurs, même là où Paul n'appelle pas clairement Jésus le Christ ou le Fils de David ou quelque chose comme ça et ne le lie pas aux promesses davidiques, il y a d'autres endroits où Paul applique clairement les textes davidiques à la personne du Christ. Ainsi, par exemple, dans Éphésiens chapitre 1, et je sais que je m'appuie sur un certain nombre de textes sans beaucoup parler du livre dans son ensemble ni du contexte. Encore une fois, mon propos est simplement de vous montrer à quel point ces thèmes sont omniprésents dans la propre façon dont Paul exprime son message à ses différentes églises. Mais Éphésiens chapitre 1 et versets 20 à 23 disent que Dieu a mis cette puissance à l'œuvre en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute règle, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et au-dessus. Chaque nom qui est nommé, non seulement dans cet âge mais dans l'âge à venir. Et il a mis toutes choses sous ses pieds et a fait de lui le chef de toutes choses, qui est l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ce sur quoi je veux que vous vous concentriez, c'est ce langage de l'exaltation de Jésus à la droite de Dieu et de sa domination sur toutes choses et sur tous ses ennemis sous ses pieds. Ce langage vient tout droit du psaume 110 et du psaume 8. Le psaume 110, qui est souvent qualifié de psaume royal ou messianique, décrit le roi messianique, comme étant à la droite de Dieu, une position de pouvoir, une position qui accordait lui d'autorité. Et maintenant, Jésus-Christ est vu dans son exaltation céleste, le règne davidique de Jésus, son règne en tant que roi David sur le trône de David, a maintenant commencé par l'ascension de Jésus à la droite de Dieu en accomplissement du psaume 110. Mais curieusement aussi, pour remonter au-delà du psaume 110, vous vous souvenez du psaume 8, la plupart d'entre nous le savent probablement encore mieux que le psaume 110. Mais dans le psaume 8, nous lisons ceci, « Ô Seigneur, notre Seigneur souverain, comme ton nom est majestueux. Sur toute la terre, voilà comment tout commence. Et puis vous reconnaissez, pour sauter quelques versets, quand je regarde vos cieux, le travail de vos doigts, la lune et les étoiles que vous avez établies, que sont les êtres humains pour que vous vous en souveniez. Évoquant clairement Genèse et 2, la création. Ou des mortels dont vous prenez soin. Maintenant écoutez ceci, vous les avez rendus un peu inférieurs à Dieu et vous les avez couronnés de gloire et d'honneur. Autrement dit, l'humanité est le point culminant de votre création. Tu leur as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Genèse 1. Tu as tout mis sous leurs pieds. Maintenant, Jésus-Christ est vu comme étant exalté au ciel au verset 22, Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Jésus, sous ses pieds, en accomplissement du psaume 8. Alors que se passe-t-il? Fondamentalement, Paul dit qu'avec la résurrection du Christ et son exaltation au ciel, à la droite de Dieu, où il règne sur toutes choses et où toutes choses sont sous ses pieds, Jésus-Christ est maintenant entré non seulement dans la règle davidique et règne, mais en accomplissement de Genèse 1 et 2, un règne qui étendra le règne de Dieu sur toute la création, en accomplissement de l'intention originelle de Dieu pour l'humanité. Cette règle mondiale, issue de Genèse 1 et 2, qui était destinée à Adam et Ève, mais ils y échouèrent et qui devait ensuite s'accomplir par l'intermédiaire d'un roi davidique, a maintenant été inaugurée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ et son exaltation à paradis. Il existe également d'autres indications non seulement sur le motif de la royauté davidique, mais aussi sur le motif de la royauté en général qui remonte à la création. Qu'en est-il de la notion de l'image de Dieu, selon laquelle il a créé les êtres humains à sa propre image, comme reflétant Dieu, comme représentant Dieu et représentant la gloire et le règne de Dieu dans toute la création? Quelques livres plus tard, dans le livre des Colossiens, dans le tout premier chapitre, Jésus est décrit ainsi, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui toutes choses dans le ciel et sur la terre, remarquez ce motif des cieux et de la terre, ont été créées, visibles et invisibles, que ce soit des trônes, des dominations, des autorités, toutes choses créées pour lui et par lui. Lui-même est avant toutes choses, et en lui toutes choses tiennent ensemble. Il se passe probablement un certain nombre de choses dans cette section des Colossiens. Il y a peut-être un motif de sagesse ici, mais il est clair qu'il est difficile de ne pas saisir les liens possibles avec le chapitre 1 de Genèse. Que l'humanité devait à l'origine être créée à l'image de Dieu pour régner sur toute la création, Jésus-Christ est maintenant décrit comme la véritable image de Dieu. Dieu, comme celui qui est lui-même Dieu. Il est désormais la véritable image, le reflet et le représentant de Dieu, qui règne sur toute la création, mais en tant que créateur. Contrairement à Adam et Ève, qui font partie de l'ordre créé, Jésus-Christ règne désormais sur la création et est souverain sur la création en tant que créateur. Ainsi émerge ici le thème de l'image de Dieu. Romains chapitre 5 et versets entre 18 et 19, pour relier davantage Jésus à Adam et à Adam, l'intention originale de Dieu pour son humanité. Au chapitre 5 et à partir des versets 12 à 18, je ne lirai pas toute la section, mais nous trouvons une comparaison approfondie entre Adam et Christ. Ce qu'Adam n'a pas réussi à faire, est en fait les effets de son péché et de sa création. Jésus, en tant que nouvel Adam et nouveau chef de l'humanité et de la création, vient maintenant le réparer et l'inverser dans un sens. Ainsi, le verset 12, par conséquent, tout comme le péché est venu dans le monde par un seul homme, Adam, et que la mort est venue par le péché, ainsi la mort s'est répandue sur tous à cause du péché de tous. Le péché était bien dans le monde avant la loi, mais le péché n'est pas encore compté là où il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a exercé sa domination depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux dont les péchés ne ressemblaient pas à la transgression d'Adam, qui est un type de celui qui doit venir, Jésus-Christ. Et le reste de la section compare ensuite les effets du seul péché d'Adam avec les effets de l'acte de justice de Jésus, probablement sa mort sur la croix. De sorte que Jésus soit clairement vu comme un nouvel Adam, accomplissant l'intention de Dieu pour l'humanité qu'Adam n'a pas réussi à réaliser, cela se réalise maintenant à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, et la nouvelle humanité et la justice qu'il établira sur tout. Des choses. Remarquez également que dans cette description du chapitre 5 de Romains, même dans la description de ce que Christ fait, vous avez à plusieurs reprises ce thème de domination ou de gouvernement. Ainsi, le verset 17, « Si, à cause de la faute d'un seul homme, la mort a exercé sa domination par l'intermédiaire d'un seul homme, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don gratuit de la justice exerceront-ils leur domination dans la vie par l'intermédiaire d'un seul homme, Jésus-Christ. » Il y a donc plusieurs facettes de cette comparaison entre Christ et Adam qui vous ramènent clairement au chapitre 1 et 2 de la Genèse. Jésus-Christ est maintenant le véritable Adam, pour reprendre également le texte des Colossiens, qui à l'image de Dieu maintenant rétablit le règne de Dieu et la gloire de Dieu, et rétablit maintenant son peuple dans une nouvelle création, dans une nouvelle humanité, inversant ce qu'Adam a fait, réalisant l'intention de Dieu pour l'humanité, à laquelle Adam a échoué. Mais cela se réalise non seulement en Christ, mais aussi dans le peuple de Dieu. Ainsi, par exemple, dans le même livre Colossiens, après la mention de Jésus comme image de Dieu, et curieusement plus tard dans Colossiens chapitre 3 et verset 10, Paul décrit cela, « Et vous vous êtes revêtus du nouveau moi, littéralement le nouvel homme ou nouvelle humanité qui remplace l'humanité originelle, remontant à Adam. Vous vous êtes revêtus du nouveau moi, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de son Créateur, ce qui évoque clairement les chapitres 1 et 2 de la Genèse. » Remarquez donc que ce qui se passe en partie, à mon avis, c'est qu'en vertu de l'appartenance au Christ, la véritable image de Dieu, maintenant le peuple de Dieu est également renouvelé à l'image de Dieu, rétablissant l'intention originelle de Dieu pour l'humanité, à savoir que les porteurs de l'image de Dieu rempliraient la terre de sa gloire et, avec ses règles, représenteraient la règle de Dieu dans toute la création. Cela commence maintenant à s'accomplir alors que le peuple de Dieu se débarrasse de l'ancien moi et revêt le nouveau moi, qui il est en Christ, cette nouvelle humanité, qui se renouvelle à l'image de son Créateur, Genèse 1 et 2. Dans Éphésiens 2, un autre texte lié au thème de la royauté, dans Éphésiens 2, l'auteur précise également qu'à la suite du chapitre 1, le texte que nous venons de regarder, où Jésus-Christ est ressuscité et assis à la droite de Dieu et il domine sur toutes choses, remarquez maintenant ce que Paul dit au chapitre 2 des Éphésiens. Si je peux passer aux versets 5 et 6. Même lorsque vous étiez morts à cause de vos offenses et de vos péchés, il nous a rendus vivants avec Christ. Dieu nous a fait vivre avec Christ. Par grâce, vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ce que Paul dit, c'est essentiellement ce qui est arrivé au Christ au chapitre 1, en vertu de son exaltation dans l'accomplissement de l'intention de création, de soumettre toute chose sous ses pieds et à la droite de Dieu, accomplissant l'intention de Dieu pour un vice. Régeant pour régner sur toute la création conformément à Genèse 1 et 2, maintenant le peuple de Dieu y participe. En vertu du fait qu'ils sont en Christ, qui est exalté au ciel et qui règne sur toutes choses, les chrétiens commencent également à remplir le mandat originel de la création selon lequel le peuple de Dieu doit refléter l'image de Dieu et régner sur toute la création. Ainsi, Paul est clairement conscient du royaume davidique, de Jésus, comme l'accomplissement des promesses de David d'un vice-régent, régnant sur Israël et finalement régnant sur la création, mais Paul remonte également à la création et voit à la fois Christ et son peuple comme accomplissant finalement l'intention de Dieu de soumettre et de dominer toute la création. Et ils le font par l'intermédiaire du vice-régent, Jésus-Christ, le fils de David, et en s'unissant à lui, en étant incorporé au Christ. Le quatrième thème, la demeure du temple de Dieu, est que Paul s'inspire également du thème de l'Ancien Testament de la restauration et de la reconstruction du temple de Dieu en tant que lieu où Dieu demeure avec son peuple. Bien qu'il y ait une mise en garde, Paul ne voit pas cela se réaliser dans la construction physique d'une structure en pierre ou de tout autre type de structure. Au lieu de cela, systématiquement chez Paul, le langage du temple est appliqué aux gens eux-mêmes. Le peuple lui-même constitue ce temple où Dieu, par son Saint-Esprit, son Esprit de la Nouvelle Alliance, s'installe désormais. Sa présence vient se poser sur le peuple de Dieu. C'est peut-être ainsi que nous devrions comprendre un langage comme celui-ci. Dans Éphésiens chapitre 5, Paul dit au verset 18, un texte que la plupart d'entre nous connaissent, Paul dit, « Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Peut-être devons-nous comprendre cela en termes de présence de Dieu remplissant le temple. Le langage ici ressemble à la notion de l'Ancien Testament de la présence de Dieu jusqu'à présent à travers son Esprit venant remplir son temple. Désormais, le peuple de Dieu est considéré comme un temple que la présence de Dieu remplit. Par conséquent, ils doivent vivre de manière appropriée, comme le précisent les commandements du reste de cette section d'Éphésiens 5. Mais pour suggérer que c'est peut-être ainsi que nous devrions le lire, revenons au chapitre 2. Plutôt, nous avons coupé les deux derniers versets, mais je veux y revenir. Commençons par les versets 19 à 22 du chapitre 2 d'Éphésiens, « Ainsi donc, vous, païens, n'êtes plus des étrangers ni des étrangers, mais vous êtes citoyens des saints et membres de la maison de Dieu, avec Israël. » Alors maintenant, remarquez l'imagerie de construction du foyer que Paul applique au peuple. Mais remarquez comment il va se déplacer et se fondre subtilement dans l'imagerie du temple. Construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, il y a encore le fondement, les 12 apôtres, le fondement du vrai peuple de Dieu, avec Jésus lui-même comme pierre angulaire. En lui, le Christ, toute la structure s'unit et grandit en un saint temple dans le Seigneur, en qui, dans ce temple, vous êtes aussi, ou en qui, je suis désolé, en Christ, vous, ce temple, les gens sont également construits spirituellement ensemble dans une demeure de Dieu ou pour Dieu. Je pense que c'est mieux interprété. Vous êtes en train d'être construits ensemble pour devenir une demeure où Dieu vit par son esprit. Il est donc clair que Paul voit l'Église comme le temple de Dieu, le temple en accomplissement d'Ézéchiel et d'autres textes de l'Ancien Testament. Oui, le temple a été restauré. Israël a été restauré, un roi davidique les dirigeant dans le cadre d'une nouvelle alliance. Et maintenant, le temple de Dieu a également été restauré grâce à Dieu habitant au milieu de son peuple. 1 Corinthiens 3, verset 16 est l'autre texte classique où Paul dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le même concept que nous lisons, lisez simplement dans Éphésiens chapitre 2. Cela peut également être reflété dans le verset 12. Maintenant, si quelqu'un bâtit sur les fondements d'or, d'argent et de pierres précieuses, ce qui suggère la restauration du temple, de l'Ancien Testament. Il est donc clair que Paul conçoit le peuple de Dieu comme le temple reconstruit et restauré, le lieu où Dieu réside désormais avec son peuple. Mais maintenant, les blocs de construction et les pierres qui composent le temple ne sont plus faits de granit ou autre, mais sont désormais constitués des gens eux-mêmes. Le peuple est le véritable temple où Dieu habite désormais. Cela peut expliquer pourquoi dans le reste de 1 Corinthiens, Paul tient tant à la pureté du peuple parce qu'il est le temple. Ainsi, Paul prend le concept et le langage de la pureté de l'Ancien Testament et les applique maintenant plus largement aux gens eux-mêmes, à l'Église, parce qu'elle est maintenant le véritable temple. Le dernier thème est la création et la terre. Je suggérerais que ce langage ou le thème de la terre et de la création, y compris la nouvelle création, se souviennent que nous avons dit qu'au moins Isaïe anticipe que la restauration finale d'Israël sur la terre aura lieu en termes d'une nouvelle création, quelque chose qui transcende le simple retour d'Israël vers la terre promise. Mais on voit beaucoup de langages qui rappellent le terroir. Je pense donc qu'en fin de compte, Paul voit la promesse d'une terre et d'une création qui s'est réalisée initialement dans les bénédictions du salut que Dieu accorde maintenant à son peuple. Nous avons vu dans les évangiles que la terre pouvait être vue en termes d'entrée dans le royaume. Il est intéressant que Jésus lui-même parle d'hériter du royaume de Dieu. L'héritage était un terme utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner Israël héritant de la terre. Maintenant, Jésus les conçoit comme héritants du royaume de Dieu. Ce langage d'héritage est également repris chez Paul. Ainsi, par exemple, pour vous donner un exemple, dans Galates chapitre 3 et verset 29, il dit, si vous appartenez à Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Notez ce langage d'un héritier. Et puis chapitre 4, verset 1, mon point est le suivant, héritier. Tant qu'ils sont mineurs, ils ne valent pas mieux que des esclaves. Mais ce que Paul veut dire, c'est que maintenant ils ne sont plus des esclaves. Ainsi, parce qu'ils sont en Christ, ils sont héritiers selon la promesse. Il est intéressant de noter que le langage de l'héritage dans Galates chapitre 3, verset 29 est lié à la promesse faite à Abraham. Ici en 3.29, vous êtes la progéniture d'Abraham. Qu'est-ce qui a été promis à la descendance d'Abraham? On leur a promis la terre. Dieu leur donnerait la terre pour toujours. Ils hériteraient de la terre. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est considéré comme héritant de la promesse du salut, du Saint-Esprit dans Galates. Je suppose donc que l'héritage du royaume, l'héritage des bénédictions du salut, sont considérés comme l'accomplissement initial de la terre promise à Israël. Mais encore une fois, nous allons voir que ce n'est pas tout ce que le Nouveau Testament a à dire sur le thème de la terre et de la création. Galates chapitre 5, dans 22 à 23, que je ne veux pas lire en entier, mais il s'agit du 22 à 25, 22 à 23, jusqu'au 25 en fait, c'est le texte des fruits du Saint-Esprit. Mais très probablement, quand Paul dit que les fruits de l'Esprit sont ces choses, encore une fois, je me demande si le langage de la fécondité n'est pas destiné à indiquer les fruits de la nouvelle création. Ce thème de la fécondité, présent dans Genèse 1 et 2, réapparaît chez les prophètes lorsque le peuple de Dieu est restauré dans la nouvelle création. Vous retrouvez tout ce langage de fécondité qui surgit. Sans jeu de mots. Mais c'est peut-être ce qui se cache ici derrière la pensée de Paul. Lorsqu'il parle des chrétiens produisant le fruit de l'esprit, ils produisent le fruit de la nouvelle création. La promesse d'une terre et d'une nouvelle création dans la restauration d'Israël sur la terre s'accomplit maintenant dans le peuple de Dieu, portant le fruit de la nouvelle création, qui recherche des choses comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la générosité, la fidélité, la douceur, l'amour-propre, contrôle, et bien d'autres choses encore. Notez cependant combien de fois Paul fait spécifiquement allusion au texte de la nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. En 5.17, Paul dit, « Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Voici, tout est passé, et voyez, tout est devenu nouveau. » Ce langage vient directement du chapitre 65 d'Ésaïe. Et de quelques autres passages d'Ésaïe qui anticipent également une nouvelle création. Donc, encore une fois, ce que Paul dit, c'est que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. L'accent n'est pas tant sur le fait que vous avez été créé de nouveau, que vous avez un cœur nouveau et que vous êtes un nouvel être humain par rapport à ce que vous êtes. Mais je me demande s'il ne faut pas comprendre cela tant en termes personnels, qui en font partie, mais plus largement en termes d'accomplissement de la nouvelle création. En Christ, la nouvelle création est arrivée. En étant en Christ, nous participons à cette nouvelle création. Ainsi, la nouvelle création d'Isaïe, qui est l'accomplissement ultime de l'intention de Dieu pour la terre et la création dans Genèse 1 et 2, est maintenant arrivée et a été inaugurée dans la personne de Jésus-Christ. Le langage de la création doit probablement être compris comme se trouvant derrière un texte que la plupart d'entre nous connaissent dans le chapitre 2 d'Éphésiens. Quand Paul dit, « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, et non le résultat d'œuvres, dont personne ne peut se vanter. » Éphésiens 2, 8 et 9. Regardez maintenant 10. Car nous sommes son ouvrage, ou ce qu'il a fait, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Remarquez à nouveau le langage de création. Donc, je pense que ce que Paul dit encore, c'est que la promesse d'une nouvelle création s'accomplit maintenant dans le peuple de Dieu, qui est une nouvelle création et capable de produire les fruits de la nouvelle création. Et je pense que si nous explorons plus clairement, Paul relie clairement la nouvelle création à la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, la nouvelle création a été inaugurée. La promesse de la terre donnée à Israël en accomplissement de la création actuelle s'accomplit dans les promesses de salut dont nous héritons et dans la nouvelle création qui a été maintenant inaugurée dans la personne de Jésus-Christ. La plupart de celles-ci, toutes celles que nous avons examinées virtuellement, se sont concentrées sur l'aspect réalisé de l'échatologie, ou l'aspect réalisé de l'histoire. Mais il y a plusieurs indices d'aspects non réalisés ou de pas encore, de consommation, d'échatologie consommée. Permettez-moi d'aborder l'un d'entre eux en conclusion. Au chapitre 1, verset 10 des Éphésiens. Éphésiens chapitre 1 et verset 10. Et je vais revenir en arrière et lire également le verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir qu'il a exposé en Christ. Et voici le mystère qu'il a révélé, c'est la volonté de Dieu. Comme plan pour la plénitude des temps pour résumer ou rassembler toutes choses en Christ, les choses dans les cieux et les choses sur la terre. Encore une fois, les cieux et la terre reflètent le langage de la création. Ainsi, le chapitre 1 et le verset 10 sont l'articulation par Paul du dessein ultime de Dieu pour le pas encore, vers lequel le reste des Éphésiens pointe, c'est-à-dire qu'un jour toutes choses dans le cosmos entier, dans le ciel et sur la terre, trouveront leur juste place. Lieu sous Christ. Toutes choses seront réconciliées et restaurées selon l'intention originale de Dieu pour la création dans Genèse 1 et 2. Mais comme Paul le démontre, ce but a déjà été inauguré. En Dieu réconciliant juifs et gentils en une seule nouvelle humanité. En Christ entrant dans son règne davidique et soumettant toutes choses dans la création. Et le peuple de Dieu participe à cette règle en vertu de son appartenance au Christ. Et comme fondement de la nouvelle alliance, la restauration du peuple de Dieu. Dieu demeure avec son peuple et Dieu établit la nouvelle création. L'intention ultime de Dieu qui s'accomplira dans la réalisation de sa volonté pour que toutes choses soient résumées en Christ et trouvant leur relation appropriée avec Christ dans l'accomplissement de Genèse 1 et 2 est déjà en cours dans la personne du Christ et ceux qui appartiennent au Christ. Par la foi. Dans la section suivante, nous nous concentrerons sur la manière dont ces cinq thèmes